Bonjour. Bon, peut-être que ça fait un peu bizarre comme ça. C'est une histoire assez extraordinaire et vous reconnaîtrez avec moi que dans la Bible, il y a quand même beaucoup d'histoires extraordinaires. Pour une raison toute simple. Je crois que c'est parce que Dieu est un Dieu extraordinaire. Quand on lit la Bible, on ne peut pas se dire le contraire. Ce qui fait la différence d'ailleurs entre la foi chrétienne et un certain nombre d'autres religions, c'est que le Dieu de la Bible nous propose une dimension dans notre foi qui dépasse le simple fait d'une religion. Dieu se présente dans la Bible comme un Dieu vivant. Et s'il est un livre qui est vivant, je disais récemment, prêchant sur ce texte, que sur le livre des Actes des Apôtres, que le livre des Actes des Apôtres, qui fait suite donc aux évangiles, est comme un livre d'aventure. C'est vraiment un livre d'aventure. C'est un livre d'aventure qui nous donne plusieurs enseignements. Par exemple, le fait que, vous savez que le livre des Actes des Apôtres relate la vie des premiers chrétiens. Après l'ascension de Jésus au ciel, le livre des Actes des Apôtres nous montre comment les croyants, ceux qui croyaient en Jésus, ses premiers disciples, et ceux qui les dirigeaient, les apôtres, comme on les appelle dans l'Évangile, ont vécu après le départ de Jésus. Dans les Évangiles, nous les voyons plus ou moins, enfin même vraiment, se reposer sur Jésus en toute chose. Jésus est là, quand ils ont faim, il fait un miracle et ils ont à manger. Quand quelqu'un est malade, Jésus est là, il le guérit, il les enseigne, il est avec eux partout. Nous voyons que lorsque Jésus s'apprête à partir, à les quitter, lorsqu'il leur annonce qu'il va bientôt les quitter, les disciples paniquent, plus ou moins, même plus que moins. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, nous les voyons animés d'un enthousiasme particulièrement extraordinaire. Pourquoi cela ? Parce que dès le début du livre des Actes des Apôtres, vous vous souviendrez qu'ils sont réunis dans la chambre haute, c'est comme cela qu'on l'appelle, à Jérusalem, donc dans un appartement qui, visiblement, ils louaient pendant qu'ils étaient à Jérusalem. Et là, ils reçoivent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dont Jésus avait dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. » Donc, ils reçoivent cette puissance, et pendant toute la suite des temps, jusqu'à leur mort, ils sont conduits par Dieu, portés par Dieu littéralement, pour accomplir la mission que Dieu leur a confiée, que Jésus aussi leur a confiée. Cependant, leur vie n'est pas une sinécure, leur vie n'est pas une vie tranquille, paradisiaque, on dirait, où tout va bien, ce n'est pas une vie toujours rose. La vie des chrétiens, dans le livre des Actes des Apôtres, est un mélange subtil de grandes bénédictions, de glorieuses aventures, mais aussi de persécutions. Et le texte que notre frère, notre ami vient de lire est symptomatique de la vie des disciples, des premiers chrétiens. Vous avez remarqué avec moi, on aurait pu lire quelques chapitres auparavant, mais bon, ça prendrait du temps. Les disciples vivent des moments glorieux. Dieu intervient, Dieu fait des miracles, les gens se convertissent par milliers. À l'époque où cette histoire que nous venons de lire a eu lieu, il y a déjà des milliers de convertis à Jérusalem. Je pense même qu'il est déjà écrit que la majeure partie des prêtres qui célébraient le culte juif, la majeure partie d'entre eux se sont convertis à la nouvelle foi, à la foi en Christ. C'est donc un peuple de Dieu important en milliers qui se compte. Et on ne peut pas s'étonner de voir que plusieurs personnes cherchent à persécuter les chrétiens parce que leur nombre grandissant commence à déranger ceux qui conservent l'ancienne foi. Nous avons lu dans cette histoire que le roi Hérode, qui régnait à l'époque sur la Judée, sur la Samarie, sur une bonne partie du pays, et qui voulait obtenir la faveur de son peuple, a remarqué que les leaders de la religion juive, les chefs religieux du pays, étaient contents qu'il ait fait arrêter Jacques. Jacques était l'un des disciples de Jésus. Vous savez, Jacques, c'était le frère de Jean, Jean et Jacques, qui avait un jour demandé à ce que, quand Jésus entrerait dans sa gloire, il soit assis l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, rien de moins que cela. C'était très ambitieux. Jacques et Jean étaient donc parmi les premiers disciples de Jésus, et c'est ce Jacques-là qui a été mis à mort, comme le dit le verset 2. Et comme le roi Hérode, qui n'aimait pas particulièrement les chrétiens, a vu que ça plaisait au peuple, alors, vous savez, quand un leader politique voit que le peuple est content, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il continue. Il continue à faire la même chose. Alors, Hérode a décidé de faire arrêter Pierre, qui était sans doute le leader un peu de l'église de Jérusalem, et de le mettre en prison, prévoyant vraisemblablement de lui faire subir le même sort qu'à Pierre. Alors, ce qui est intéressant, et j'aimerais souligner trois points important cet après-midi dans cette histoire, c'est d'abord que il y a eu toujours et il y aura toujours des autorités. Les autorités peuvent être favorables aux chrétiens, mais ils peuvent aussi leur être défavorables. Aujourd'hui, nous vivons dans ce pays, en France, dans un pays où les autorités ne sont pas particulièrement hostiles aux chrétiens. Enfin, pour l'instant, ça va. On peut se réunir dans les églises librement, on peut prêcher l'évangile librement, parfois même on peut aller dans la rue le faire, on peut louer des salles qui ne sont pas des salles de réunion habituelles, des salles municipales, des cinémas, etc. Pour prêcher l'évangile, ça ne pose pas de problème. On peut prêcher l'évangile sur les ondes, ça va. Mais ce n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, même en France, ça n'a pas toujours été le cas. L'histoire de France, est riche de persécutions à l'égard de tous ceux qui étaient attachés à l'Évangile et au Dieu vivant et vrai de la Bible. Et dans bien des pays du monde aujourd'hui, les autorités ne sont pas favorables à l'Évangile. Ceci dit, j'ai intitulé ce message « Entre les mains de Dieu » pour une raison toute simple, et nous allons le voir dans quelques instants. Qui que nous soyons, que nous soyons, et ce n'est pas le cas bien sûr cet après-midi, une autorité en charge d'une ville, d'un pays ou de plus, nous sommes quand même entre les mains de Dieu. Parce que la Bible montre bien, Dieu institue les autorités, mais il peut mettre un terme à une autorité quand il veut. Et nous savons que dans l'histoire, et encore aujourd'hui, lorsque le temps est venu pour une autorité de s'en aller, Dieu trouve toujours un moyen de faire en sorte que cette autorité s'en aille. Une des grandes leçons de cette histoire, nous allons le voir dans un instant, c'est le comportement de l'apôtre Pierre. Vous savez que Pierre a toute une histoire. Pierre, lorsque Jésus a été arrêté, nous lisons cela dans l'Évangile, Pierre avait paniqué lorsqu'une jeune fille, une jeune servante, l'avait reconnu comme ayant été un disciple de Jésus. Non seulement elle l'avait déjà vu, parce que Jésus était bien connu, mais il semble que son accent particulier, puisque Pierre, comme beaucoup de disciples de Jésus, était originaire du nord du pays, et apparemment, les gens du nord avaient un accent particulier. Vous savez, c'est un peu partout pareil dans le monde aujourd'hui. Dans tous les pays, les gens du nord ont une façon de parler, je ne sais pas si c'est comme ça au Vietnam, mais les gens d'Oui, c'est comme ça. Bien sûr, c'est partout dans le monde comme cela. Les gens du Nord ne parlent pas tout à fait comme les gens du Sud. En France, si vous êtes déjà allé dans le Sud de la France, que ce soit le Sud-Ouest ou le Sud-Est, vous verrez que les gens ont un autre accent qu'à Paris. Enfin, ça dépend qui vous rencontrez à Paris. Il y a un peu des gens de tous les coins, de tous les endroits. Mais Pierre avait un accent particulier. Il avait donc été reconnu par cette jeune servante et il avait paniqué. Or, nous avons vu... nous voyons que plus tard, Pierre a un tout autre comportement. Ici, là, nous le trouvons en prison. Selon toute vraisemblance, Pierre, fort logiquement, devait être jugé et surtout mis à mort le lendemain. Si le roi Hérode a vu que ça plaisait au peuple que Jacques soit mis à mort, Nul doute qu'il avait l'intention de faire mettre à mort Pierre pour que le peuple soit encore plus content de lui. Vous savez, les autorités aiment bien avoir la faveur du peuple. Quand ils peuvent l'avoir à moindre frais, et c'est le cas ici, alors ils font en sorte de l'avoir. Le tournant de cette histoire, c'est d'abord le comportement de Pierre. Que fait Pierre en prison ? Vous allez me dire, en prison, la marge de manœuvre est assez étroite. Oui. Mais en prison, on peut se plaindre. En prison, on peut déprimer. En prison, on peut faire plein de choses. Quand même. Et surtout, on peut avoir différents comportements. On peut essayer de se justifier et d'essayer de mettre les autres prisonniers avec soi en criant à l'injustice. C'est vrai que c'était injuste. Pourquoi mettre Pierre en prison ? Il n'avait rien fait de spécial. Jacques non plus, remarquez. Mais là, les disciples étaient tributaires de l'humeur du jour des dirigeants. Et vous savez que les dirigeants politiques ont toutes sortes d'humeurs. On ne va pas entrer dans le détail. Parce que la Bible dit que les autorités ont été instituées par Dieu, qu'elles nous plaisent ou qu'elles ne nous plaisent pas. Elles sont instituées par Dieu pour un temps. Nous n'avons pas le temps de lire ce soir, cet après-midi, la suite de l'histoire, mais vous verrez que dans les derniers versets de cette histoire, nous lisons comment le roi Hérode a tragiquement connu la mort peu de temps après. Comme quoi, il ne faut jamais être trop sûr de soi. Pierre est donc en prison et il a fait un choix. Il aurait pu se mettre à prier. Bon, je en connais beaucoup qui, jetés en prison injustement pour avoir prêché l'évangile ou simplement parce qu'ils sont chrétiens, se seraient mis à prier. C'est logique. Remarquez peut-être qu'il l'a fait. Mais ce n'est pas cela que note la parole de Dieu. Il aurait pu commencer à parler du Seigneur aux gardes. Et puis je pense aux autres prisonniers qu'il devait y avoir, parce qu'à l'époque, les cellules individuelles n'existaient pas. Hein, généralement, les prisons, c'était même souvent en sous-sol, c'était des endroits assez malsains, il n'y avait pas de beau carrelage ou de beau plancher, c'était de la terre, et puis les conditions étaient quand même assez rigoureuses, assez difficiles, voire même assez malsaines. Pierre ne prie pas spécialement, il ne rend pas ce témoignage spécialement. La chose que la Bible fait remarquer, c'est qu'il s'est mis à dormir. Vous savez, dans la Bible, dormir, bon, il est reconnu que dormir fait du bien, dormir est nécessaire, mais dans le langage spirituel, dormir, c'est pas trop bien vu. On dit plutôt qu'il faut être éveillé. D'ailleurs, il y a un texte qui dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Et Christ, réveille-toi d'entre les morts, donc sommeil assimilé à la mort, mort spirituelle, réveille-toi et Christ t'éclairera. Le sommeil n'est pas toujours bien vu. Lorsque Jésus est dans le jardin de Gethsémané, il prie à un moment crucial de sa vie sur terre, et ses disciples, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Au lieu de veiller avec lui, ils dorment. Et Jésus le leur reproche. Il dit, vous dormez, vous n'avez même pas pu veiller une heure avec moi. Mais ici, Pierre dort, et nous avons toutes les raisons de croire qu'il a raison de dormir. Pourquoi ? Pourquoi Pierre dort-il ? Bon, on pourrait dire parce qu'il est fatigué. Oui, peut-être. Être arrêté injustement, alors que son frère en Christ vient d'être exécuté. Se dire que peut-être c'est mon tour demain matin, ou demain après-midi. C'est pas rassurant et ça peut faire paniquer. Moi, je pense que si j'avais été arrêté comme cela, enfin, je pense que, facile à dire, moi, je pense que j'aurais pas réussi à dormir. J'aurais trop pensé. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je pourrais dire pour ma défense ? Et si je priais pour que Dieu me sorte de là ? Bon, et je sais, Jacques, mon frère, est mort, mais après tout, Jésus a toujours dit qu'on n'avait pas forcément tous le même sort. Je pense que j'aurais eu du mal à m'endormir. Pierre s'endort. Et pourquoi Pierre s'endort-il ? Moi, je ne vois qu'une explication. Il s'endort d'abord parce qu'il est serein. Parce que pour s'endormir, en général, il faut être serein, ou alors épuisé. On n'a pas de raison de croire qu'il est épuisé. Je crois que Pierre dort parce que, comme dit le titre de la prédication, il sait qu'il est entre les mains de Dieu. Il sait que son sort est entre les mains de Dieu. Il a vu cela depuis longtemps. Pierre, il a déjà été arrêté. Il a été arrêté avec son camarade Jean, avec son frère en Christ, Jean, et ils se sont retrouvés devant le tribunal religieux. Ils ont été jugés et on leur a demandé de ne plus parler de Jésus. On les a même menacés, à tel point que quand ils sont repartis chez eux, ils sont arrivés voir les frères et sœurs dans la foi et ils ont dit, Seigneur, ils ont prié ensemble, ils ont dit, Seigneur, tu as entendu leurs menaces, étends ta main pour que nous puissions continuer à prêcher ta parole et qu'il y ait des prodiges et des miracles. Donc Pierre a déjà l'habitude des tribunaux. Il sait, et il a vu par la suite, que les autorités religieuses ne les ont pas arrêtés de nouveau. Bon, certes, leur frère Étienne a été condamné. Et il a été exécuté, lapidé. Mais ils savent que un jour, ça peut se terminer bien, un jour ça se termine moins bien. La question c'est, si c'est le plan de Dieu que nous vivions plus longtemps, se dit Pierre, alors nous vivrons plus longtemps. Pierre a compris une chose, ce n'est pas Hérode qui commande vraiment, c'est Dieu. Ce n'est pas Hérode qui commande, c'est Dieu. En apparence, c'est Hérode. Mais ce texte nous prouve que ce n'est pas vraiment lui qui commande. La preuve, il décide de faire exécuter Jacques. Jacques est exécuté. Mais il décide que demain, ce sera le tour de Pierre et Dieu intervient. Parce que Dieu a un plan. Un plan qui est différent selon les uns et selon les autres. Dieu avait sans doute estimé, certainement estimé, que la carrière de Jacques était terminée. Celle de Pierre, non. Ne me demandez surtout pas pourquoi. Demandez-le à la seule personne qui le sait et qui peut vous répondre, c'est Dieu. Dieu a un plan pour les uns qui est différent de celui pour les autres. Dans le plan de Dieu, certaines personnes meurent jeunes et d'autres meurent beaucoup plus tard. Et il n'y a que Dieu qui peut vous dire pourquoi. Les hommes cherchent parfois des explications. J'ai rencontré des fois des gens, des chrétiens, qui croyaient qu'il y avait une explication à tout. Bon, cela encore, ça va. Mais qui croyaient qu'ils devaient la donner. Moi, je ne peux pas vous donner une explication à tout parce que je n'ai pas toutes les réponses. Je crois, par exemple, que Dieu, oui, a un plan différent pour chacun de nous. Et je ne peux pas vous dire pourquoi il a choisi ce plan pour vous et ce plan pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Dieu seul le sait, et c'est mieux ainsi. Pierre est donc dans sa prison et il s'endort parce qu'il sait que ce qui lui arrivera demain ne dépend pas d'Hérode, mais de Dieu. Il sait que sa vie est entre les mains de Dieu. Il y a un psalmiste, le psalmiste David, qui a dit un jour, « Mes destinées, mon destin est entre les mains de Dieu. » Mes destinées sont dans ta main. Et le texte pris dans son texte, dans sa forme originale, dit « Mes temps sont dans ta main. » Mes temps sont dans ta main. Notre vie est faite de temps. Il y a des temps forts, des temps moins forts. Dans toute vie humaine, il y a des temps forts. Et puis des temps qui sont beaucoup moins forts. Il y a ce que l'on appelle la routine quotidienne. Et de temps en temps, cette routine est perturbé, bousculé, parfois bouleversé même, par des temps forts, des expériences qui demandent plus d'attention, plus de concentration, plus de sérieux, parfois même plus de prière, et bien d'autres choses encore, plus de confiance en Dieu. Nous nommons ces périodes-là des épreuves, et dans la Bible nous voyons, et dans la vie de chaque jour, nous voyons qu'il y a des moments que nous vivons qui sont des moments plus calmes et des moments plus forts. Et même ceux qui pensent qu'aujourd'hui, pour eux, tout va bien, tout est tranquille, faites attention, tout ne sera pas toujours comme cela. Ce n'est pas être un mauvais augure ou un prophète de malheur de dire cela. C'est une réalité de la vie. Les premiers chrétiens ont vécu des moments glorieux, où Dieu faisait des miracles extraordinaires. Pierre va en vivre un dans quelques instants dans le récit. Pierre est là dans sa prison et il dort. Alors, je vais laisser Pierre un instant, et je vais revenir à lui en conclusion, J'aimerais que l'on regarde aussi ce que font les chrétiens pendant ce temps-là. Alors, vous l'avez lu avec moi, c'est un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. Oui, bon, par là, mais je crois que le verset était tout en haut. Je crois que c'est le verset 5 qui dit que pendant que Pierre était en prison, sans relâche, voilà, la dernière phrase en bas, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Dans d'autres traductions, c'est sans relâche ou avec ferveur, avec ardeur, l'Église faisait continuellement monter des prières pour Dieu, à Dieu pour Pierre. Voilà. L'Église, elle, peut faire plus de choses que Pierre, parce qu'elle n'est pas en prison. Il n'y a que Pierre qui est en prison. Mais l'Église passe par des moments difficiles, puisque Jacques, un autre leader de l'Église, vient d'être exécuté. Pierre, qui était sans doute le porte-parole de toute l'Église à l'époque, son leader principal, est lui aussi en prison et tout laisse à penser qu'il va mourir. Que fait l'Église ? Sans doute la chose la plus intelligente qu'un chrétien puisse faire dans un cas pareil. S'adresser à la seule personne qui peut intervenir. Au-dessus du roi Hérode, il n'y avait pas grand monde. Je pense pouvoir dire sans me tromper qu'au-dessus du roi Hérode, il y avait encore un homme, c'est-à-dire l'empereur de Rome. Mais celui-là, il n'était pas facile à atteindre. Il était loin, et le temps que le message lui arrive, à l'époque les messages prenaient plus de temps que maintenant, je crois que ça aurait été trop tard. Donc l'Église s'adresse à la seule personne qui peut intervenir. Vous allez me dire, mais Dieu n'est pas intervenu pour Jacques. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que l'Église n'avait pas prié, peut-être que l'Église avait été prise de court par l'arrestation et l'exécution de Jacques, qui visiblement avait été rapide. Mais l'Église prie pour Pierre. Que demande l'Église à Pierre, pour Pierre, pardon, à Dieu ? Nous ne le savons pas. Nous n'avons pas le texte de la prière. Je dis cela parce que quand on voit la réaction de l'Église quand Pierre est délivré et qu'il revient vers les siens, on est un petit peu surpris. D'abord parce que quand Pierre frappe à la porte, sans doute en pleine nuit, oui, en pleine nuit, la servante qui passe par là et qui entend frapper et qui entend la voix de Pierre le reconnaît tout de suite. Alors elle a la foi. Elle ne doute pas. Elle reconnaît la voix de Pierre. Toute heureuse, elle va voir les autres et leur dit, c'est Pierre qui frappe. Pierre. Les chrétiens ont une drôle de réaction. D'abord, nous l'avons lu dans le texte, en bas, vous le voyez, verset 15, ils lui dirent, tu es folle, Pierre ? Mais tu ne sais pas où il est, Pierre ? Il est en prison. Demain, il va sans doute mourir. Voilà la réaction de l'Église qui prie. Vous savez que des fois, la parole de Dieu, la Bible nous présente, nous dépeint l'Église telle qu'elle est. Pas forcément telle qu'elle devrait être dans l'idéal, mais telle qu'elle était réellement. Les chrétiens prient, et pourtant ces chrétiens-là étaient assez costauds dans la foi, si je peux m'exprimer ainsi. Les chrétiens prient, je suppose, pour que Dieu protège Pierre, pour que Dieu le sauve, pour que Dieu les aide dans ces moments difficiles. Et quand Dieu intervient d'une manière encore plus belle que tout ce qu'ils espéraient, ils disent à celle qui leur annonce la nouvelle, « Tu es folle ». Alors elle dit non, c'est Pierre. Alors ils se disent, bon, c'est certainement pas Pierre, c'est pas possible, c'est son ange. Ah bon, c'est rare dans la Bible qu'on voit les anges de quelqu'un arriver chez les autres. Hein. Il y a des anges dans la Bible, on en parle pas mal, mais l'ange de quelqu'un, c'est rare. Et quand la servante entend frapper, elle va ouvrir finalement, et c'est bien Pierre, c'est lui. Pourquoi ? Parce que Dieu a répondu aux prières de l'Église, qui priait tout en doutant. Donc, s'il y a un bon message ici, c'est que Dieu ne tient pas compte, parfois, de notre incrédulité. Dieu écoute nos prières, et heureusement qu'il ne regarde pas toujours au plus profond de notre cœur, ou du moins qu'il ne tient pas trop compte de ce qu'il y voit. Parce que vous savez qu'il y a un texte dans une des épîtres de Paul à Timothée qui dit « Dieu est fidèle même lorsque nous ne sommes pas fidèles ». Ce qu'on pourrait traduire par « Dieu est fidèle même quand nous n'avons pas trop de foi ». Dieu agit quand même. Donc Dieu va libérer Pierre miraculeusement parce que l'Église prie, pas parce que l'Église croit, mais parce que l'Église prie. Et vous savez, quelquefois, il nous arrive de prier sans avoir pour autant une très grande foi. Nous sommes souvent comme cet homme de l'Évangile dont le fils était gravement malade et qui, lorsque Jésus lui a dit « Est-ce que tu crois ?» et l'homme avait dit « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité, viens au secours de ma petite foi ou de mon manque de foi. » Dieu récompense. Non, Dieu répond parfois plus à notre honnêteté et à notre humilité qu'à notre foi, même s'il nous exhorte à avoir plus de foi. Pierre a été libéré. Alors je termine en rappelant ces trois grandes vérités. Il y a au-dessus de nous des autorités. Ces autorités gouvernent selon ce qu'elles croient être bon ou leur intérêt ou je ne sais quelle autre notion. Parfois, nos vies peuvent être bousculées par ce que décident ces autorités. Mais quoi qu'il arrive, rappelons-nous que nous sommes entre les mains de Dieu. Dieu a un plan. Dans ce plan peuvent entrer parfois les autorités, mais avant tout, Dieu a un plan pour nous qui est un bon plan, un plan de bonté, un plan de bénédiction si nous lui sommes fidèles. Et enfin, dernier point, celui que nous venons de voir, prier sera toujours une bonne solution. Prier sera toujours une bonne chose. Prier et apprendre à connaître davantage la parole de Dieu nous sera toujours bénéfique parce que cela nous permettra de mieux connaître Dieu, de mieux connaître comment il se comporte, comment il agit, ce qu'il pense, ce qu'il aime, ce qu'il veut que nous fassions. Et sachons nous rappeler que Dieu peut toujours intervenir dans notre vie. Que son nom soit béni.